Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Bonsoir à tous et oui, nous sommes 2 heures ensemble pour ce Lahaye Night Show. Et en tout cas, pour moi, c'est 2 heures qui passent toujours très vite et ça, c'est peut-être très bon signe. Ce soir, en ma compagnie, vous aurez le plaisir de retrouver Ariane. Et oui, elle laisse son fil de côté et elle nous revient beaucoup plus naturelle et peut-être plus sexy, en tout cas beaucoup moins castratrice. Et puis, on ne va pas en faire toute une histoire, hein, puisque ma deuxième complice, c'est justement une historienne qui vient souvent nous parler de la sexualité des grandes figures historiques. Et c'est Diane Ducret qui est avec nous. Alors, quel homme apte à faire face à ces femmes? Eh bien, vous allez retrouver Christophe Médici, un coach qui, je le sais, vous plaît bien, mais nous n'aurons pas besoin d'être coachés. Nous allons parler librement et il saura sans doute, enfin en tout cas non, je n'en doute pas, il saura s'adapter parce que c'est un homme féministe. Et oui, justement, on croit toujours que seules les femmes peuvent être féministes. C'est tout à fait faux. Les hommes aussi, certains sont féministes, d'autres beaucoup moins, je vous l'accorde. Bon, en tout cas, c'est notre thème de ce soir. Mais avant de présenter nos invités, je vous propose d'évoquer tous les sujets que nous allons aborder. Donc, on va commencer par les féminismes, le féminisme justement. Est-ce que c'est un plus ou un moins pour la sexualité des couples? Je dis bien des couples, hein, je ne dis pas de la femme. Et puis ensuite, on aura testé pour vous les bougies de massage en love coaching. On vous donnera comme recette aujourd'hui les sujets qu'il ne faut pas aborder avec les femmes. Est-ce qu'il faut aborder le foot avec les femmes en ce moment? Ben, vous le saurez, vous aurez la réponse tout à l'heure. En love conseil, on va évoquer les caresses mammaires. Et en lecture érotique, je vous lirai un petit extrait de ce qu'on considère comme un chef-d'œuvre de la littérature érotique. Ça s'appelle Septentrion et c'est Louis Calaferté qui en est l'auteur. Voilà notre programme de ce soir. Alors, avec moi, Ariane, bien sûr.
Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Ariane. Le fil est de côté?
Pas trop, attendez, si je commence à me défiler complètement, déjà je serais pas là ce soir si je me défilais. Et puis en plus, si je défile ma robe, bah, franchement, il me restera plus grand-chose. Et là,
vous allez
c'est
pas vous
un
dérober,
petit peu scandaleux. Donc je ne me dérobe pas et mon fil est bien là et entier.
Ben, c'est bien dommage que vous ne vous dérobiez pas.
Bah, pas tout de suite, hein. On a quand même 2 heures de nuit à passer ensemble, je crois.
On verra. L'autre complice féminine, c'est Diane Ducret. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un exercice nouveau pour vous, j'imagine. Vous êtes historienne, vous avez écrit beaucoup de livres justement sur la sexualité, mais le dernier c'est Lady Scarface, hein, vous évoquez justement ces femmes de mafioso. C'est un autre exercice pour vous ce soir de parler librement.
Oui, c'est vrai. Bon, j'ai plutôt pour habitude de parler librement
ça,
en général.
Vrai,
je le fais hors de votre antenne là ce soir, c'est un peu une première, on va voir.
Christophe Médici, bonsoir.
Bonsoir Brigitte Lahaye. Moi, je suis très inhibé, moi. Je suis entouré de 3 belles femmes en pleine nuit, comme ça. Elles parlent de se dérober. Je pensais au fil de la nuit tout à l'heure lorsque vous parliez du fil, Brigitte.
Joli, joli.
Oui, entouré de 3 belles femmes en pleine nuit. Je crois qu'il y a. Je fais beaucoup d'envieux, en fait, je pense. Je fais beaucoup d'envieux.
Bon, eh bien, le féminisme. Est-ce que vous êtes un homme féministe, Christophe?
Oui, profondément.
En quoi?
Profondément, parce que d'abord, je respecte la femme profondément.
On a compris que vous y alliez très profondément.
J'y vais très profond. Non, mais en plus, sincèrement, je pense que en off, tout à l'heure, elle commençait à parler. Vous commenciez toutes les trois à parler de notre sujet. Il y a féminisme et féminisme. On va y venir certainement. Il y a différents profils de féministes. Et je pense qu'un homme féministe, c'est un homme qui dit d'abord, mais sincèrement, hein, qui pense que il n'y a pas de sexe faible, il n'y a pas de sexe fort. On est à égalité. On est juste différents. Il y a un dimorphisme sexuel, on a parfois évidemment beaucoup de différences, beaucoup d'auteurs que vous recevez, Brigitte, le disent à longueur d'année, mais je suis féministe parce que j'aime les femmes, j'aime la femme autant que j'aime l'homme, et puis peut-être aussi, et je finirai là-dessus, que j'aime ma part. à moi, féminine. J'ai un anima, si on reprend Jung, et je suis, j'ai une part femme, tout en étant très masculin. Je pense qu'on peut être viril, fort et homme, mais avec une sensibilité. C'est pas nos pères, certains. Moi, j'ai été éduqué par un père, il disait, un père, ça chiale pas, un homme, ça chiale pas. C'est quoi cette bêtise?
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien pour les couples, hein? Je précise bien le sujet de notre débat, pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez, Ariane, Diane?
Eh bien, est-ce que c'est bien pour le couple? Mais tout dépend, l'image qu'on met derrière le féminisme. Moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est le cliché qu'on a derrière. Soit on imagine une fille cheveux courts, forcément lesbienne et mal baisée. C'est ça qu'on entend. C'est comme une insulte. C'est ce qu'on évoquait un petit peu avant. Donc on se dit, ah bah forcément, elle va être soit super castratrice, la féministe, au sein de son couple.
Ça vous rappelle quelque chose?
Absolument pas, parce que alors, moi, je ne suis pas féministe. Brigitte, je suis masculiniste. Je sais pas si c'est un néologisme que je suis en train de faire, mais bon sang que je les aime, ces hommes. Et alors franchement,
mais les féministes aussi,
mais
hommes,
bien sûr, je dis ça sur un ton un peu provocateur, volontairement, mais bien sûr, et c'est là l'erreur souvent qu'on fait sur le féminisme, c'est de les réduire,
en
de les confiner
temps,
dans
en
ce
même
cliché.
Temps, au départ, on va faire un peu d'histoire, Diane Ducret, si vous le voulez bien. Au départ, le féminisme est arrivé pour que justement la femme ait un peu plus de pouvoir, parce qu'il n'y avait que l'homme qui avait le pouvoir. C'était l'époque où la femme devait accomplir le devoir conjugal. De toute façon, elle n'avait même pas le droit avoir un chéquier, enfin. Donc, le féminisme, au départ, a peut-être un peu nui au couple. Et il me semble que ça, c'est quand même important de le rappeler. Quand je parle au départ, hein, je parle au début des années 60. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Diane Ducret?
Oui et non, parce que justement, d'un point de vue sexuel, le féminisme a amené quoi à la base? C'était, alors, en effet, il y a toutes les avancées sociales qu'on vient d'évoquer, mais il y a surtout, d'abord, la connaissance de l'anatomie de la femme, qui était interdite jusqu'alors, et avant les années 50, qui n'existait pas dans les livres de médecine, dans les coupes de livres de médecine, les parties féminines dédiées au plaisir.
C'est les féministes qui ont prononcé le mot clitoris.
Absolument.
Haut et
qui l'ont imposé,
au départ,
oui. Et qui l'ont imposé, et dans le milieu médical, il faut attendre 1950 et un gynécologue juif allemand féministe qui s'appelle Ernst Graffenberg qui va trouver ce qu'on va appeler le point G. Donc avant cette époque-là, d'abord, ça n'existe pas.
C'est aussi un homme, Picpus, qui a inventé la pilule, hein.
Et la pilule, exactement, dans les mêmes années, 1950-1954. Et donc le féminisme, d'abord, dans la sexualité, ça va permettre quoi? Ben, une meilleure connaissance du corps de la femme et donc une meilleure appréhension de son plaisir et un plaisir libéré de l'objectif maternité. Donc dans un premier temps, en effet, ça va mettre un grand coup de pied à l'homme qui n'était pas habitué à cela et ça va un peu le faire trembler sur ses fondamentaux vis-à-vis de la femme qui va avoir dès lors des attentes parce qu'elle a une connaissance et elle est libérée à la fois de la méconnaissance et de la tâche maternelle.
En même temps, elle va jouir peut-être plus facilement, plus souvent, et elle est moins inquiète d'être enceinte, et ça, les hommes en ont largement profité.
On bénéficie quand même, ouais.
Ce que vous dites me fait penser aussi que pendant très longtemps, sur la scène politique, par exemple, on pensait qu'il fallait pas, en France, n'oublions pas que les femmes n'ont droit de vote que depuis 1946, Brigitte, hein. Avant, ils pensaient quoi? Que la femme n'était pas suffisamment intelligente pour faire de la politique, et que c'était forcément le genre masculin qui devait s'occuper des affaires de la cité. Non, mais on est où, là? Et ça, on peut apporter quelque chose.
Je vous signale qu'on a longtemps pensé que les femmes n'avaient pas d'âme, hein.
Mais c'est ça! Mais c'est dans le même esprit!
Enfin, ça remonte à plus loin, c'est ça.
Oui, sans côté que, à un moment donné, il les brûlait au Moyen-Âge parce qu'il pensait que c'était certaines des diaboliques, hein, et les porteuses du mal.
Si on continue dans ce que vous dites, Christophe Médici, aujourd'hui, on a tendance quand même à considérer que les femmes sont plutôt des victimes et qu'il faut les défendre. Par exemple, on ne sait pas trop si elles sont aptes à juger, si elles ont envie d'avoir une relation sexuelle quand elles sont un peu saoules.
Enfin, ça, c'est terrible.
Il y a quand même des choses qui arrivent qui sont inquiétantes.
Ça, c'est très inquiétant et c'est une des dérives aussi du féminisme à trop vouloir protéger la femme quelque part. Est-ce que on ne la considère pas comme un objet faible qui a besoin d'une protection, ce qui était la base du paternalisme aussi. La notion du consentement.
Il y a
un retour de bâton, justement. À la base, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que le féminisme, à la base, a libéré en effet la femme. Et pour les couples, c'est tant mieux. Une femme qui se connaît mieux, qui connaît ses désirs, son anatomie et qui est libérée de l'angoisse de la maternité à chaque coup de rein, c'est quand même pas mal pour un couple.
J'adore ça. À chaque coup de rein, dis donc.
Bah, écoutez, vous voulez que je dise quoi? Il y a d'autres organes pour ça, mais ça paraît moins à propos quand
même. Vous savez, les hommes aussi donnent des coups de rein.
Diana. Justement, c'est pour ça que
mais
ça va bien ensemble.
Coït, ça veut dire aller ensemble.
Hein. Ah, oui, c'est ça, voilà. Ça va ensemble. Mais je trouve qu'en effet, peut-être aujourd'hui, il y a un peu un danger dans le féminisme à tout prix et à tout va pour les couples d'un point de vue sexuel, c'est que à la fois il y a parfois aussi une dérive castratrice. Alors j'aime pas trop ce mot parce que je suis pas sûre qu'il existe, mais en tout cas une dérive de certaines féministes qui ont pensé que si les hommes l'ont fait avant, nous on peut le faire aussi, on peut se conduire aussi mal, nous aussi on peut avoir aucun sentiment, nous aussi on peut avoir un peu notre revanche sur des années finalement où on a été brimé
de l'homme, quoi.
Ouais. Et ça c'est un peu une brimade du coup pour des types qui aujourd'hui savent plus trop où ils en sont, en tout cas pour une génération, alors Y ou autre, j'aime pas trop les lettres et les acronymes, mais il y a toute une génération, je trouve, de 30 à 40, 45 qui sont un peu paumés, justement, parce que à la fois, ils ont très, très envie de respecter la femme, ils ont été habitués, éduqués là-dedans, et la femme est une partenaire à part égale, mais à la fois, ils ont plus trop non plus de place définie, et dans ce jeu-là, ils s'y retrouvent pas forcément.
Et si on n'entend pas le terme féminisme comme quelque chose de revanchard, revanche sur l'homme, mais dans le terme positif de l'expression, et finalement, ce que je me dis, au-delà du fait qu'elle soit libérée, cette femme, sexuellement, elle prend aussi des initiatives, elle ose, la féministe. Et si elle ose, je pense que l'homme, et c'est pas Christophe qui me dira l'inverse, je pense, c'est plutôt agréable d'avoir une femme active,
ça, c'est les femmes québécoises.
C'est vrai.
Au Québec, ça se passe comme
mais
ça,
vous
ça
êtes québécoise,
un plus.
Vous
non, pas du tout, mais
vous avez un accent.
J'y suis allée beaucoup. Ah oui, ça, c'est un grand mystère.
Oui, elle a un accent. Depuis le début de l'émission, je me dis, vous avez un accent.
Ça sent l'accent de féministe.
Mais ça fait pas que depuis le début de l'émission, figurez-vous, ça fait 33 ans que ça
non,
dure.
Mais moi, c'est la première fois que je vous entends, donc.
C'est un peu de Belgique et un peu de Pays Basque mélangé.
Voilà. Ah,
mais
voilà.
Pour avoir été avec un Québécois un moment et avoir été au Québec assez souvent, là-bas, la femme est extrêmement féministe d'un point de vue sexuel. C'est-à-dire que eux, ils sont passés d'une génération où il y avait une emprise de la religion et la femme avait 8 enfants, quelque chose d'extrêmement, un monde assez paysan finalement, en une génération extrêmement féministe. Et alors, c'est la femme qui drague, c'est la femme qui dit ses envies et qui dicte, en effet, plutôt son plaisir sexuel, et l'homme
le Canada est un cas très particulier,
c'est
parce
très
que
à part,
c'est quand même le pays qui a inventé le premier la sexologie, enfin c'est peut-être le pays
non latin d'abord aussi,
peut-être. C'est peut-être le seul pays où la relation homme-femme est assez équilibrée et est assez
c'est un joli cas, je suis assez
d'accord, faut lui reconnaître ça au Canada, alors qu'on voit qu'à côté les États-Unis le féminisme a fait quand même
beaucoup de ravages, beaucoup de ravages avec une catégorisation des comportements. Où là, du coup, on a cet exemple d'hommes qui ne savent plus se comporter. Faire un compliment à une femme, alors c'est peut-être du harcèlement. Ils savent plus du tout jusqu'où aller, puisqu'il y a eu une
judiciarisation.
Merci, j'allais pas y arriver.
Non, mais ça, vous savez, on a compris. Et d'autant plus que moi, j'ai des amis à qui il arrivait des aventures comme ça dans l'Amérique du Nord, qui est terrible. Tu parles un tout petit peu à une femme, tu te retrouves chez le juge. Hein. Je veux dire, je connais quelqu'un. C'est ça, Brigitte.
D'où aujourd'hui, le sujet de ce soir. Oui, donc soyons féministes, mais point trop d'infos.
Oui,
quoi.
Point trop
ça
d'infos.
Sera peut-être la conclusion.
Ouais, et pour ceux qui ont le courage dans la rue, ça m'est arrivé rare fois, mais qui arrivent en vous faisant un compliment juste sympa, vous êtes vraiment jolie, au lieu de poursuivre votre chemin, franchement, remercier.
Moi, je dis merci, je fais un sourire.
Ouais, moi aussi, je me dis, bravo, mais continuez, même si, vous avez aucune chance, soyons clairs.
Vous avez vu comment elle fait, Ariane. Vous avez aucune chance. Alors, messieurs qui nous écoutez.
J'espère bien que vous n'aurez pas mon 06, monsieur. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est continuer à faire ça, parce que ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas se priver de ça. Et féliciter le courage de ces hommes-là qui prennent ce courage à deux mains, parce qu'ils ont peur de encore se faire traiter de je ne sais pas quoi. Alors, bravo. Continuez, messieurs. Franchement, ça fait plaisir.
Voilà. Ce soir, elle va se faire alpaguer en sortant de la station.
Mais ça va, il n'y a plus de métro à cette heure-là.
On va écouter le témoignage d'Amélie, qui, elle, était toujours vierge. Et puis, on va écouter également Laurent, un garçon qui était particulièrement jaloux. Et j'étais avec Robert Zully.
RMC, c'est le Lae Night Show.
Bonjour Robert, bonjour Brigitte.
Bonjour Laurent.
Oui, donc je voulais intervenir un petit peu dans votre émission pour faire profiter un petit peu de mon expérience personnelle.
Oui, c'est intéressant en plus ce que vous allez nous dire, allez-y.
Oui, donc j'ai 48 ans, donc je suis marié depuis, on va dire, un peu plus de 20 ans. Et donc au début de notre mariage, tout allait très bien, un jeune couple, on va dire. Et puis, bon, les années passant, mon épouse a changé de travail en passant différents concours et s'est retrouvée à la tête d'un service. Donc, à partir de là, ses habitudes ont commencé à changer au niveau de sa tenue vestimentaire, au niveau de ses horaires, etc. Et puis, bon, j'avais un tempérament un petit peu jaloux au départ, hein, ça m'est pas venu comme ça. Donc, et puis j'ai commencé un petit peu à la surveiller, à la suivre même, hein, parfois.
Et
à la guider. Ouais, à lui poser pas
elle
mal de questions. Ben après, oui, elle l'a su une fois, enfin, une fois qu'on s'est tout dit, hein, parce qu'à un moment donné, ça a éclaté. Donc, mais bon, le jour où je l'ai suivi, même dans les semaines qui ont suivi, non, ça, c'est, elle ne l'a pas su. Hein. Je suis resté assez discret là-dessus. Voilà, je l'ai interrogé assez, je fouillais un petit peu ses affaires, etc., etc. Tout ça par rapport à, bon, au changement de comportement, mais bon, c'était pas elle vis-à-vis de moi, en fait. Hein. C'était... Je pense maintenant qu'elle recule, hein, par rapport à son travail, ses nouvelles fonctions, ses nouveaux horaires,
d'accord,
etc.
Et bon, et on va essayer d'arriver au cœur du débat, parce que c'est ça qui est intéressant.
Oui, absolument. Donc, en fait, jusqu'au jour où, en fait, bon, voilà, donc on est rentré dans une discussion où elle a craqué, hein, parce que moi, tout ça me rendait assez...
Vous montiez en pression, oui, donc...
Absolument. Donc, le soir, donc, on se faisait la tête, je lui parlais pas, etc. Donc, je lui reprochais
beaucoup de choses. Mais dites-nous ce qui vous a guéri, parce que c'est ça qui est intéressant.
Ben oui, absolument. Donc, au bout du compte, on a discuté. Puis, bon, ça s'est passé du jour au lendemain. Mais bon, donc, pour abréger, donc, on a commencé à fréquenter des clubs échangistes, en fait. Voilà, moi, ce qui me gênait beaucoup, c'était le regard des hommes sur elle aussi, hein, parce que c'est une femme qui est assez sexy. Donc...
Au fur et à mesure, finalement, ce système-là vous a excité. C'est-à-dire que de voir des hommes lui faire l'amour, ça vous a excité. Au lieu d'être jaloux, vous êtes devenu accro de ça.
D'une jalousie virtuelle, vous êtes passé à une possible jalousie réelle, mais dont vous vous êtes finalement dédouané, au fond. Enfin, dédouané, je veux dire, guéri, comme dirait Brigitte.
Oui, absolument. Maintenant, comme je vous dis, bon, maintenant, bon, je prends du plaisir à voir mon épouse avec des autres hommes. Hein. Bon, moi aussi, je participe, bien sûr.
Mais vous voyez, ce que j'aime bien, Laurent, dans votre témoignage, c'est que ça prouve à quel point nos sentiments, ou notre ressenti, pour reprendre l'expression de Robert Zwilly, ils cachent toujours une part d'ombre de nous-mêmes. Et là, on voit bien qu'au fond, quand on est très jaloux de quelqu'un, c'est quand même parce qu'il y a une sorte de fantasme que cette autre personne peut faire l'amour avec d'autres. Et là, bah, vous êtes passé du fantasme à la réalité, mais comme vous pouvez en profiter, bah, quelque part, c'est devenu excitant au lieu d'être douloureux.
Oui, on pourrait presque même comparer ça dans le récit de Laurent, vous savez, aux thérapies aversives. C'est-à-dire que si vous avez peur des serpents, on vous met dans une pièce qu'avec des serpents. Ben, c'est ce qu'il a fait un peu, Laurent, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans une pièce où il y avait que des hommes et il ne pouvait qu'être jaloux. Et à tel point qu'au fond, c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser,
Ça marche pas forcément avec tous les hommes,
mais
en tout cas,
ça
peut marcher. Merci beaucoup, Laurent, de votre témoignage. Amélie, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Vous avez 31 ans et vous voulez parler de faire l'amour sans désir, hein, c'est ça, mais néanmoins en toute acceptation.
Oui, tout à fait. Alors en fait, la situation est relativement simple. Je suis toujours vierge, même si j'ai eu en fait déjà des rapports, mais des rapports qui n'ont pas abouti. Soit ça venait de moi, soit ça venait de mes partenaires.
Mais parce que vous avez des petits problèmes de vaginisme, c'est ça?
Non.
Ou parce qu'au dernier moment, vous avez dit non?
Non, pas du tout. En fait, une première fois, ça venait de moi, il y a de ça plus de 10 ans. C'est un rapport qui s'est fait sans préliminaire, d'une minute à l'autre, comme ça, sans que je m'y attende. Donc, j'ai fait un blocage, je me suis contractée. Mm-hmm. Donc, rien de traumatisant. Ensuite, il y a des rapports qui n'ont pas abouti, mais du fait de mes partenaires. Après, je ne dis pas que je n'ai pas eu ma contribution, en fait, que ça n'a pas abouti à cause d'eux, mais toujours est-il que c'était vraiment à cause d'eux et je n'ai pas eu de blocage.
D'accord, c'est-à-dire qu'ils ont eu des pannes. Hein,
voilà, oui. C'est pas forcément des pannes en tant que telles. C'est ce qui s'est passé les deux dernières fois. Donc au total, ça fait trois rapports.
Et qu'est-ce que vous avez envie de me dire?
Et alors, ma question, c'était... je souhaiterais ne pas rester vierge, mais je me pose juste la question de savoir si l'appétit peut venir en mangeant. Donc à quel point est-il possible d'éprouver du plaisir sans avoir envie d'avoir des relations, sans éprouver de désir avec des personnes qui ne m'attirent pas. J'essayais juste histoire de faire du sexe pour du sexe.
Mais pourquoi voudriez faire du sexe pour du sexe?
tout simplement pour ne pas rester vierge et juste avoir des rapports et pour du plaisir comme tout à chacun.
Mais c'est quoi pour vous la sexualité finalement?
C'est absolument pas l'idéal ce que je vous dépeins, c'est sûr.
Non, mais qu'est-ce que vous imaginez? À quoi ça sert? Pourquoi vous avez envie de ne plus être vierge?
Tout simplement, comme je vous ai dit, avoir du plaisir, même si les sentiments ne sont pas là, l'attirance n'est pas là.
D'accord, découvrir ce plaisir dont on parle et qui finalement vous attire.
Voilà, ça fait quelque chose que je connais, moi, en le faisant toute seule.
D'accord.
Et
oui.
Bon, on est bien d'accord, c'est pas vraiment comparable.
Ouf, c'est, vous savez, un orgasme, c'est un orgasme. On peut avoir des orgasmes très forts avec quelqu'un et parfois très forts toute seule.
Faut
pas vous imaginer que ça va être deux fois mieux parce que vous serez deux.
Ah non, je suis tout à fait d'accord.
Non, non, vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous vous pénétrez quand vous vous caressez seule?
Oui, ça m'arrive, mais après, c'est pas ce que je préfère, mais ça m'arrive.
D'accord. Mais donc, de ce côté-là, vous avez pas de problème, vous arrivez à vous pénétrer avec un godemiché sans difficulté.
Aucun souci, oui.
D'accord. Bon. Donc, on pourrait imaginer que de manière tout à fait inconsciente, vous avez choisi des mauvais partenaires, parce que vous étiez peut-être pas encore prête pour que ça marche.
Non, alors là, vraiment pas. C'est vraiment faute d'opportunité.
Oui, bien sûr, mais vous savez, les opportunités, on, de manière encore une fois très inconsciente, on va les choisir qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Vous voyez, donc je pense que vous étiez peut-être pas encore tout à fait prête, et peut-être que là, maintenant, vous commencez à être prête pour envisager peut-être une relation à deux qui aboutira sur quelque chose de bien ou pas, qu'importe.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne pense vraiment pas que c'était inconscient, mais...
En tout cas, ça n'a pas marché. Bon, après, qu'importe.
Ça n'a pas marché parce que c'était des hommes pour lesquels je n'avais pas d'attirance, mais que je trouvais plaisant physiquement malgré tout.
Mais vous savez, Amélie, le sexe fort, c'est peut-être pas toujours l'homme. Et si vous avez été avec ces hommes assez montrant, en tout cas, très peu d'intérêt, il est possible qu'en effet, ça n'ait pas pu marcher. Vous voyez, donc si vous allez à nouveau vers un homme et que vous avez vraiment envie qu'il vous fasse l'amour, il faut faire un peu semblant quand même d'avoir un peu de désir. Il faut l'encourager, si je puis dire, voyez.
D'accord. Oui, tout à fait.
Et puis si vous rencontrez encore une fois un échec, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra vous poser un peu la question de vos choix.
Oui, c'est normal.
Parce que finalement, à force de rencontrer que des échecs, on peut penser quand même qu'on sait ce qu'on cherche. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mais là, ce ne sont que deux échecs mis à part.
En tout cas, pour répondre à votre question, oui, on peut commencer à avoir une relation sexuelle sans avoir de désir et quand même ressentir ensuite du plaisir. Ça, c'est possible.
Oui, ça me semble tout à fait possible.
Mais il faut accepter de se laisser aller et de lâcher prise, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut il faut pas rester dans le contrôle. Si vous restez dans le contrôle, il y a peu de chances, en effet, que vous arriviez au plaisir vraiment.
Oui,
vous comprenez.
D'accord. Oui, tout
donc, il faut un peu baisser les armes.
Oui, on est d'accord. Ce n'est pas forcément des plus évidents, mais.
Mais vous savez, Amélie, prenez votre temps. Vous avez 31 ans, vous êtes vierge. Après que vous soyez vierge encore un an ou deux, ça ne changera pas grand-chose à votre vie. Donc, prenez le temps et essayez de choisir plutôt un premier amant qui soit un homme qui vous plaît un peu et qui ait l'air d'être assez prévenant. Et comme ça, ça se passera plutôt mieux.
Je pense aussi.
Hein, ne prenez pas le premier venu qui serait là juste pour, comme on dit vulgairement, vous dépuceler. Merci Amélie, en tout cas, de votre confiance. Et figurez-vous qu'on s'éclaire à la bougie maintenant. On en parle dans un instant.
RMC. Tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lae Night Show. RMC. Quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et nous sommes toujours avec Ariane Limousin, Diane Ducret et Christophe Médici. On a testé pour vous ces fameuses bougies de massage. Moi, je ne cesse de dire que pour moi, c'est un des artifices de la sexualité des couples le plus formidable parce qu'il allie beaucoup de sens. Voilà, ça c'est mon avis. Il y a à la fois la lumière, les bougies donnent toujours une lumière assez changeante. On peut masser, donc il y a le toucher qui est mis en valeur. Il y a les odeurs qui sont toujours très agréables. Enfin bref, les sens sont mis en valeur. Donc moi, je suis très fan des bougies de massage, mais je ne suis pas la seule ce soir pour en parler.
Oui, vous disiez à l'instant, Brigitte, l'odorat, moi, c'est le premier truc qui m'interpelle, parce que au-delà du fait que ça va parfumer votre appartement quand vous allumez votre petite bougie, eh bien, vous l'étalez aussi sur le corps et ça se mêle à l'odeur, à la fragrance de l'épiderme, et c'est vrai que ça fait un truc très caliente, sans vous brûler pour autant. Moi, c'était le premier truc qui me faisait un peu flipper, je dois vous l'avouer.
Ouais, c'est chaud au départ.
Ouais, au début, je me disais, je vais me brûler. Ah, franchement, mais qui a cette idée curieuse d'aller dire, tiens, je vais me mettre de la cire dans le dos et hop là, j'aurai un petit massage, ça va être super agréable. Oui, c'est super agréable parce qu'en fait ça ne vous brûle pas, c'est juste chaud, ça sent bon et pour une fois, c'est pas ce côté ultra gras des huiles de massage qu'on pourrait trouver autre part.
Donc, fan également.
Ah mais moi, complètement fan. Ouais,
Diane, vous...
Alors moi, j'ai pas encore testé, mais j'ai peur du gaz.
Du gaz.
J'ai tendance à...
Ça fait pas péter, hein, Diane.
Non, je vous rassure.
La bougie est flash. Le méthane avec les flashs, un coup, on ne sait pas ce qui peut se passer quand on se détend.
Mais c'est une toute petite flamme.
Ça me fait très peur.
Bon, vous allez initier, mesdames, vous allez initier Diane au bougie de massage.
On connaît la phobie de Diane Ducré.
Vous êtes cavalière tout comme moi et vous savez bien quand on dépile la queue des chevaux avec, souvent on le fait au briquet en haut, il y a des émanations de méthane, ça fait des flammes énormes, c'est très dangereux, on peut se brûler.
Mais j'ai jamais épilé la queue de mes chevaux. D'abord, je respecte les queues suffisamment pour ne pas les épiler.
Alors dans les chevaux de compétition, en saut d'obstacle, on épile le haut de la queue du cheval, à la base hein, évidemment, et du coup ça se fait au briquet.
Vous avez une queue de cheval.
Je la coupe aussi. Si, chez les chevaux on fait comme ça, et alors c'est hyper dangereux. De nombreuses personnes ont été brûlées parce que quand un cheval se détend justement, il y a un peu de méthane et du coup ça fait des flammes énormes.
Oui,
et c'est très dangereux, donc ça m'inquiète beaucoup. Bref, des bougies dans la chambre, j'ai tendance
à... Mais faut pas manger un petit licorne carnet juste avant d'utiliser.
Ah oui, mais si en plus on mange
une salade, parfois des bougies parce que c'est bon pour la méditation et que ça élève, il paraît-il, les énergies dans une pièce. Enfin,
pourquoi pas.
C'est très très intéressant la bougie, vous savez. Bachelard dans l'intuition de l'instant, parce que je sens que vous aimez les choses intellectuelles. Il parlait de cette chose-là, de la flamme. Et l'image que prenait Bachelard au niveau de la flamme, dans les songes et les rêves, c'était justement cette histoire de la flamme. Et d'ailleurs, les grands bouddhistes, quand ils vont faire une méditation, on les fait travailler avec la respiration. Vous le savez, ça m'agite, hein, face à des bougies. Donc la bougie, je trouve que c'est, ça amène, en plus du massage, quelque chose de fort, de beau dans une pièce.
Faut pas masquer les fesses,
c'est ça. Il y a des zones à éviter,
Diane.
Mais c'est ce que Salazar faisait, le dictateur portugais, justement. Il avait un jeu érotique comme ça, avec une bougie, et il prenait avec sa maîtresse des petites plaques de plexi colorées de couleurs différentes, et suivant l'intensité qu'il souhaitait donner à certaines caresses ou autres, il avait trouvé un petit système de poulies, et il faisait changer le plexi pour changer la couleur qui reflétait la bougie et pour donner une teinte différente à chaque câlin, à chaque moment disons de la scène érotique.
Vous dites que même les dictateurs peuvent être sensibles, c'est ça?
Oui,
ouais.
c'est toute la difficulté de l'âme humaine.
Ouais. Christophe, vous aimez aussi les bougies de massage?
Oui,
alors
j'adore. Je trouve de toute façon tout ce qui peut se faire à deux, être massé. L'autre jour, on avait parlé des
huiles. Alors, je précise quand même, parce que là, c'est très important de signaler, on fait ça avec des bougies de massage spéciales. Hein. On ne fait pas ça avec une bougie. C'est vraiment un produit particulier. Hein, parce que si vous le faites avec une bougie, on est dans du SM. Et là,
les grands professionnels de ce qu'on appelle le massage tantrique. Je le dis à tous nos amis qui nous écoutent en pleine nuit. Les massages tantriques, ça peut être très hot. D'ailleurs, ce sont des massages qui se pratiquent nus. C'est-à-dire qu'un homme qui se fait faire un massage. Alors après, attention, il y a ce qu'on appelle tantra rouge, tantra blanc, tantra. Mais on peut se laisser tenter aussi. Non, c'est très fort. Et je sais qu'ils utilisent tout type de, voilà, parfois des bougies, parfois des choses comme ça. Et il y a un côté, alors ça paraît bizarre, mais il y a un côté spirituel à ce type de choses. Il y a une dimension spirituelle. Ça, j'en suis sûr.
Pourquoi ça paraît bizarre?
Oui, non, oui. D'ailleurs, pourquoi je dis ça?
Non, et puis, pour calmer vos inquiétudes, là, j'y repense aux bougies, Diane. Il suffit de l'allumer, vous faites fondre tranquillement. Vous allez dans votre cuisine, vous faites votre petite mixture et vous.
Mais il y a du gaz dans la cuisine.
Vous allez dans la salle de bain là où il y a plein d'eau, vous voyez. Et vous prenez votre bougie de massage, vous faites fondre votre huile comme ça et vous la soufflez tout de suite. Et après vous revenez avec et comme ça vous êtes tranquille. Il n'y a plus d'émanation de gaz possible.
Faut
la souffler avant.
Bon, Diane Ducré, c'est promis, la prochaine fois que vous venez, on vous offrira une bougie de massage et on vous montrera comment ça fonctionne.
Et ma sœur.
Christophe est d'accord pour ma sœur.
En fait, je vais y aller tout de suite.
Franchement, pas de problème.
Allez, on écoute les confidences de Sébastien Barrio sur son expérience en tant qu'acteur de film X maintenant.
RMC, vous aimiez les femmes avant? Vous allez les adorer.
Bonjour Brigitte.
Alors Sébastien Barrio, vous avez commencé la tournée des films porno en 97, hein, c'est ça? Vous avez tourné pendant pas mal d'années, puisque ça fait 3 ans que vous avez arrêté, donc vous avez...
À peu près 13 ans.
13 ans, ouais, hein, 13. C'est ouais. Une longue carrière, 13 ans.
Oui.
De loyaux services.
Oui. Bon, et loyaux services, oui.
Jamais de panne? Vous allez rendre des auditeurs jaloux, hein, mais allez-y, dites-le.
Eh ben, écoutez, si. En plus, j'en parle dans le spectacle. Hein, la panne, ça peut arriver. La panne, c'est un peu comme un ascenseur. Hein, un gonflage, deux actions, trois dégonflages. Hein. Quand on a un problème à la première phase, à la phase 1, gonflage, il n'y a pas de phase 2. La phase 2 existe s'il y a une phase 1. S'il n'y a pas de phase 2, il n'y a pas de phase 3. Résultante de la phase 2, pour vous la faire plus courte, il y a des moments où on ne bande plus. C'est un grand moment de solitude. Plus vous vous concentrez, moins ça vient.
C'est un peu comme ceux qui vont donner leur sperme dans les banques spécialisées. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ça des banques. On peut faire des dépôts, mais pas des retraits. Ça veut dire que la caissière, on n'y touche pas. Le gourdin hiberne. Et là arrivent les moments de...
Et ça c'est évidemment un extrait de votre spectacle.
Ouais.
Donc vous avez tourné pendant 13 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films pornographiques? Vous adoriez le sexe?
Ah, le sexe, j'ai toujours aimé, oui, je pense que j'ai toujours aimé. Non, c'était vraiment une coïncidence. Je me suis retrouvé, j'étais à Marseille en plage, dans un camping qui s'appelle le Rieux. Et j'ai suivi des amis à moi qui m'ont emmené au Cap d'Agde à Port Nature. J'étais dans un sauna. J'ai fait jouer la musique à deux jeunes femmes, très jolies femmes, et un garçon est venu me voir et il m'a dit, vous avez un sacré coudrin, vous devriez faire du porno. J'ai dit,
donc on vous a repéré pour vos qualités professionnelles déjà.
Voilà, ouais, pour mes qualités professionnelles.
Vous étiez très jeune, je crois, quand vous avez démarré.
Ouais, j'avais 24 ans, 24-25 ans. Ouais, j'étais un petit jeune. Maintenant, j'en ai 42. Ça fait qu'on a, on a passé pas mal de temps.
Et j'imagine quand on fait des films pornographiques pendant 13 ans, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez appris et qui pourrait servir aux hommes qui nous écoutent?
Qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, j'ai appris à me connaître moi-même, à connaître mon anatomie. À partir du moment que dans votre tête, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Ne cherchez pas plus. Il suffit d'une pensée pour bander, mais il suffit d'une pensée pour débander.
Mm-hmm.
Voilà. Ça, c'est très important. Il faut que les gens le sachent.
Mais est-ce que c'est... Parce qu'il y a une blague comme ça qui dit que les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc, est-ce que vraiment la tête et le pénis sont reliés? Ou est-ce que c'est...
Le mental, c'est ce qu'il y a de plus important.
D'accord.
De toute façon.
Vous confirmez quand même qu'il y a un neurone qui passe de l'un à l'autre.
Oui. Moi, je confirme une chose. C'est qu'on ne peut pas y arriver si on n'est pas d'accord avec soi-même.
D'accord.
Voilà.
Alors, il y a une chose aussi. Moi, j'ai connu quand même un peu les hardeurs, Sébastien Barrio.
Oui.
J'ai remarqué que dans l'ensemble, vous êtes quand même assez fier de votre appendice.
Assez fier, ouais. C'est.
Et comme j'ai aussi connu beaucoup d'hommes, j'ai remarqué que finalement, pour qu'un homme n'ait pas trop de panne, il faut déjà qu'il soit fier de son pénis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez côtoyé des collègues qui eux avaient peut-être plus de panne? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Je me rappelle de cette époque où j'ai remplacé des acteurs professionnels. Je me tairai les noms, de toute façon. Je les ai remplacés parce qu'ils avaient, pas de délation. Je les ai remplacés parce qu'ils avaient des pannes. Voilà. On me téléphonait, on me disait, bon, Seb, est-ce que tu peux venir? Il y a une personne qui a un problème.
Vous avez été cascadeur, en quelque sorte. Hein.
C'est un peu ça, oui, voilà.
D'accord. Et alors, pourquoi ils avaient des pannes, ces acteurs dont on ne dira pas les noms?
Je pense que ça peut être des problèmes avec leurs amis, ça peut être des problèmes familiales, ça peut être plein de choses qui ne vont pas autour d'eux. Même.
Donc quand on a des soucis, a priori, on peut avoir des pannes.
Ça peut arriver, oui. Quand on a des soucis, ça peut arriver. De toute façon, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Voilà. On n'est pas des surhommes, nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Voilà. Et l'être humain fonctionne avec un cerveau. Voilà. Avec la pumère, la durmère, l'arachnoïde. Voilà, avec le liquide céphalo-rachidien, le cervelet qui sert à l'ordre moteur. Et l'ordre moteur, c'est tout ce qu'on fait bouger, plus le pénis. Hein.
C'est votre envie d'être comédien, j'imagine, qui vous a donné envie de faire ce spectacle?
Je pense que j'ai toujours voulu être comédien. Depuis tout petit, déjà à 5 ans, les infirmières disaient, du moins quand ils venaient à l'hôpital, disaient à ma mère à chaque fois... votre enfant fait toujours des mises en scène avec sa serviette, son savon, son gant de toilette, tout. Il nous fait tout le temps des mises en scène différentes. Et quand j'étais un tout petit peu plus vieux, vers 13, 14, 15 ans, je faisais beaucoup d'imitations, Zezette et Pouzix, quand j'étais au mariage de ma sœur. Bon,
et donc là, aujourd'hui, vous rêveriez d'avoir une carrière d'acteur? Vous êtes très marqué par ce passage dans le X, ou bien vous avez l'impression que c'est assez facile maintenant de tourner dans des films traditionnels?
Non, je suis pas marqué. C'est-à-dire que je suis fier du parcours que j'ai fait. Je suis très content. J'ai rencontré plein de gens. Notamment, je vous ai rencontré aussi dans mon parcours il y a très longtemps. Voilà, quand j'ai commencé mon métier, j'ai rencontré une personne très très sensible, très intelligente, très sympathique, une âme humaine. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Et des gens comme vous, il y en a pas beaucoup. Voilà, j'ai rencontré des gens bien, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des gens moins bien. Bon, Terra et nous, on se dit sur les gens moins bien, mais j'ai passé de très bons moments et on apprend plein de choses. Voilà, dans le porno, on apprend plein de choses et ça nous dirige sur certains qui veulent faire la comédie, d'autres qui veulent faire boulanger, d'autres qui veulent faire menuisier.
Mais voilà. C'est pas forcément le meilleur tremplin, j'imagine, pour être acteur de films traditionnels.
Non, c'est pas vraiment le meilleur tremplin. Ce qu'il y a, je pense que, à la base, avant d'être acteur de films pornographiques, on peut avoir une fibre de comédien et que les gens ne savent pas qu'on a déjà cette fibre à la base. Après, on va la développer par la force et à se dire, on ne lâche jamais rien. Moi, je suis une personne, j'ai fait ce métier, j'ai fait beaucoup de films et j'avance. Je ne m'occupe pas de ce qu'on va dire derrière moi si on dit des choses pas très gentilles, mais j'avance et je me dis tout peut arriver quand on travaille.
Vous avez déjà joué d'ailleurs dans certains films traditionnels. On a Julien qui est avec nous, Sébastien Barriot, qui a une question à vous poser. Bonjour Julien.
Bonjour Brigitte et bonjour Sébastien, et félicitations pour la carrière.
Merci, bonjour Julien.
Et beaucoup de chance pour la prochaine carrière qui démarre bien. C'est très bien.
Ah ben c'est très gentil.
Au demeurant, je voulais vous poser une question plus personnelle sur votre vie personnelle. Je pense que vous êtes en couple depuis un certain nombre d'années. Peut-être avez-vous même déjà des enfants.
Je ne suis plus en couple. Non. Je vais faire taire les rumeurs. Je ne suis plus en couple. Je me suis séparé au mois de janvier. Mais j'étais très proche d'elle, oui.
D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment, lorsqu'on a été ardeur et qu'on a assouvi pour le bien-être des spectateurs qui visionnent nos films quasiment tous les fantasmes inimaginables, donc transcrits par les réalisateurs des films, comment peut-on encore avoir, avec sa partenaire, des fantasmes à assouvir et se générer des fantasmes? Vous allez me dire, c'est peut-être la différence entre une carrière et la vie personnelle.
Bah, faites pas votre demande et votre réponse, Julien.
Non, mais je veux dire, j'arrive pas à concevoir comment on peut, au-delà d'avoir fait tout ça, avoir encore des choses qu'on puisse imaginer faire avec une partenaire qu'on n'a pas fait au cinéma, quoi, à l'écran.
Ben, je pense que c'est à partir du moment qu'on des fantasmes, on peut en avoir tout le temps, hein. On peut fantasmer sur notre voisine qu'on touchera jamais, on peut fantasmer sur on reste soi-même déjà à la base, même si on change, qu'on devient comédien de
films. Alors, je vais peut-être poser une question un peu plus large finalement, Sébastien Barriot. Est-ce que dans votre vie privée vous avez une sexualité aussi débordante et aussi fantasmatique que Julien pourrait l'imaginer, ou est-ce qu'au fond c'est plus plan-plan?
Oh ben, quand ça peut arriver que ça soit très très mouvementé, parce que je reste moi-même. Je suis même, je dirais même pire sur certains moments avec
dans ma
vie privée, je peux être encore pire que ce que j'étais devant les caméras.
Et alors voilà. Est-ce que vous avez auprès des femmes, j'entends des femmes de tous les jours dans la vie courante, est-ce que vous avez le même succès que Rocco Siffredi? Parce que c'est impressionnant. Moi, je me souviens, j'étais en Belgique faire une émission de télévision avec Rocco Siffredi. Tout le public était complètement, public féminin évidemment, était complètement excité par Rocco Siffredi. Est-ce que vous avez vous aussi un succès phénoménal auprès des femmes?
Ben, il s'avère que quand je sors ou quand je vais à droite, à gauche, un peu partout maintenant, je me suis aperçu, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans mon spectacle, qu'on va m'arrêter, on va me reconnaître, ou les gens vont venir me voir.
Non, mais je parle des femmes, hein, là, je parle
même
pas des gens.
Même des femmes et des. Voilà. Non, c'est il s'avère que j'ai pas, je pense pas avoir le même succès que Rocco, parce que Rocco a fait un tel boom, et en plus c'est la production Rocco Siffredi production, que moi j'ai été quand même en retrait de tout ça. J'étais un acteur qui se faisait connaître.
Oui,
comme
il a
ça,
créé juste presque à... une marque.
C'est vrai. Ouais.
Merci Julien de votre question. Et dans un instant, c'est notre love coaching de ce soir.
RMC. Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes. RMC, Quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et c'est toujours en compagnie de Ariane Diane Ducré, notre historienne, auteur de Lady Scarface aux éditions Perrin Plon, et de Christophe Médici, notre coach, auteur de Homo Connecticus aux éditions d'Angle. Alors aujourd'hui, notre love coaching, c'est quel sujet ne doit-on pas aborder lorsqu'on parle avec une femme? Est-ce que alors le foot, pourquoi pas, hein, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui aiment le foot. Moi non, ça tout le monde le sait, bon, mais pourquoi pas, hein.
On aime entendre parler les hommes de ce qui les intéresse. Si eux sont intéressés par le foot et qu'ils sont tout enthousiastes, pourquoi pas? On aura plaisir à les
oui,
entendre.
Mais pas trop longtemps, peut-être.
Moi, pas spécialement.
Oui, je sais pas.
Je laisse entre eux. Hein, ça.
Justement, tiens, Brigitte, quand je réfléchissais à ce love coaching, je me disais, alors, c'est quand on parle avec une femme qui est la sienne, sa fiancée ou sa femme, il y a deux, trois thèmes, notamment, à mon avis, qui vous sont vraiment rédhibitoires si on faisait un tiercé.
Les ex.
Hein, les ex. Ah, les ex. Son ex. Oui, non, mais Brigitte, c'est plus fréquent que d'habitude qu'on le pense. Hein. Parler de son ex ou de ses ex, ou en parler, et surtout en parler fréquemment, c'est quelque chose qui, effectivement, peut être rédhibitoire. Et je peux comprendre.
Mais
d'abord,
c'est pareil ça pour
peut
nous, rendre... hein,
oui.
Si on se met à parler de nos
oui,
ex.
Oui, oui,
mais c'est
plutôt,
fréquemment, c'est qu'il y a
j'ai l'impression qu'il y a un tropisme plutôt masculin à parler de ses ex. Je pense que les femmes, en tout cas, moi, de
moi,
mon expérience perso,
ouais.
Mes ex parlaient peu de leurs ex. Et moi, quand j'étais plus immature, je le dis très sincèrement, là, il m'arrivait trop parler de certaines ex.
D'accord. Ça paraît tellement évident.
Deuxièmement, la deuxième chose qui est terrible pour parler d'une femme, c'est des délires, ce que j'appellerais des délires de mecs. Vous savez, mesdames, que parfois, quand les mecs parlent ensemble, ils parlent de certaines choses, où ils se retrouvent un peu dans un bain d'adolescence, comme dirait Aznavour. Et des délires de mecs, je crois pas que ce soit très bien d'en parler.
On veut des exemples.
Avec,
bah ouais, mais on veut des exemples.
Qu'est-ce
que vous
savez,
quoi, les délires de mecs?
Des délires de mecs.
Bah,
les
on
mecs,
veut des délires de filles.
Mais
on veut savoir.
Eh ben, faut nous raconter.
Mais des délires de mecs,
d'abord, sincèrement, on est dans l'émission Brigitte Lahaie parle souvent de,
c'est celui qui a la plus loin, voilà.
Et ben nous aussi on peut faire ça.
Non mais les mecs parlent notamment quand les mecs parlent de drague, de nana ou de certaines femmes, ils en parlent presque comme de voiture. Et puis quand des mecs parlent ensemble de femmes, sincèrement je préférais pas que les femmes l'entendent.
Attends,
je préférais pas sincèrement.
Et le troisième
point, eh bien ça va pas vous étonner, parfois je parle quand on est avec une compagne mariée ou pas, on s'en fout, hein. Parfois vous supportez pas un ami ou une amie ou deux amis de votre mari ou fiancé et tout ça. Et c'est vrai que si on se met à parler de lui, c'est pas bon. Je m'explique. Moi, je pense pas que vous deviez ou que nous, on doit interdire à quelqu'un qu'on ne supporte pas la fréquentation. Je pense qu'un couple, ça doit être ça. Imaginez, voilà, vous êtes avec votre fiancé. Moi, je suis avec Ariane. On est ensemble, d'accord. Je supporte pas votre amie Sandrine et vous supportez pas mon ami Patrick. Vous n'avez pas à m'interdire de voir Patrick. Par contre, si je me mets continuellement à vous parler de Patrick, à un moment donné, c'est inconvenant. Vous le supportez pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et par contre, je pense que parfois, c'est ça, une amitié, c'est aussi subtil et aussi privé qu'un amour, voilà. Mais parler de quelqu'un que l'autre supporte pas, c'est pas très bon. Voilà.
Bon,
moi, je pense que...
D'accord.
Il y a un autre sujet qu'il faut peut-être pas forcément aborder, c'est le physique. En fait, dans un sens, ça peut être super au tout début, quand on flatte, je sais pas, vos courbes, ouais, très bien, mais... Très vite, ça va dégénérer parce que j'ai l'impression que les femmes sont souvent un petit peu trop susceptibles. C'est-à-dire que tu dis ah c'est marrant comment t'es habillée, ce genre de petites phrases comme ça. Et elle forcément elle va mal le prendre. Dit mais pourquoi, mais ça me va pas, ça me fait des grosses fesses. Alors tout de suite ça va. C'est peut-être le sujet un peu touchy à aborder.
C'est pas faux,
parce
pas
que
faux.
Finalement derrière la volonté première qui est de faire un compliment, et ben ça se retourne en inverse et la femme est persuadée que c'est une critique.
Disons que l'homme a intérêt à comprendre très vite quel est le complexe.
Oui,
de
voilà.
Sa compagne.
C'est exactement.
Une question de manque de confiance en soi,
ouais.
Parce que certains hommes vont leur parler de leurs cheveux ou autre,
oui.
Ça déclenche la même chose, mais ça se dit pas, mais c'est plus en effet ça, comprendre très vite quel est le complexe, mmh. Ou quel est le manque de où se place le manque de confiance en soi de l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, parce qu'on l'a tous, on en a tous, et ne pas appuyer sur ce bouton-là. Moi, c'est plus ça, je suis pas sûre qu'il y ait des sujets en soi, à part si en effet, les ex, certains détails d'hygiène, personnel, hygiéniste, peut-être pas besoin, ne jamais dire à une femme, on en parle quand tu seras plus calme. Ça, c'est tout. on en reparle quand tu seras calmé ou tu vas avoir tes règles. Non, ça, c'est
vrai. Ah oui, ça, c'est vrai.
Jamais dire à une femme qu'elle est un peu instable ou qu'elle est hormonalement un peu challengée.
C'est normal, c'est une femme.
Voilà. Ça, c'est pas des sujets, peut-être, en effet. Et surtout, on en reparle quand tu seras plus calme. À part ces choses-là avec l'ex.
Ouais.
Je pense que pour le reste, il n'y a pas de sujet interdit.
Non, j'ai tendance à dire, il suffit qu'ils soient un petit peu malins. Bah, nos hommes, quand ils ont fait, quand ils ont abordé un sujet ou quand ils ont fait une réflexion et qu'ils ont vu que ça, ouais, ça faisait, ça, c'était carton rouge, ils enlèvent ça.
Ouais. C'est parfois, voilà, c'est ça, Brigitte. Puis parfois, c'est pas forcément moins le thème qu'on va en parler que la façon dont on va en parler.
Parce
que il y a une histoire de langage. Les hommes, je vous parlais des hommes entre eux. Parfois, quand les hommes entre eux sont entre copains, c'est pas un langage soutenu. Et c'est un doux euphémisme que j'emploie. Voilà.
Allez, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les infos du Laëla Night Show sur la page Facebook de l'émission ou sur le compte Twitter LaëRMC. Et puis tout de suite, on écoute Céline. C'est une auditrice qui était venue dans nos studios pour participer justement à notre Laëla Night Show. Et elle était également venue bien avant pour nous présenter une pratique plutôt originale, le massage au bol tibétain. Allez, préparez-vous à ce grand frisson.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lie Night Show.
Céline, merci d'être là, bonjour.
Merci surtout de m'inviter, de m'accueillir, vraiment, ça fait plaisir.
Donc, vous avez assisté à la première heure donc dans la régie avec Loïc et Ariane, vous avez vu, hein,
c'est super.
Il y a de l'effervescence.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Et qu'est-ce que vous écoutez cette émission depuis combien de temps?
Oh là, ça fait un an et demi.
Ah, vous êtes une jeune auditrice alors.
Ouais, quand même, je l'écoute régulièrement et ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que déjà je m'intéresse beaucoup à la psychologie, c'est une partie de mon métier, pardon. Mais je sais pas, ça a fait changer des choses en moi-même, dans mon couple, dans ma famille.
Comment vous avez découvert l'émission?
Alors là, j'ai pas essayé de voir, mais je crois que c'est un peu le hasard. Parce que je suis souvent en voiture avec des bouchons.
Vous êtes tombée dessus.
Je suis tombée dessus, et puis je pense que quand on a, je dis toujours, ton être attire ta vie. Quand on a des choses tellement fortes en soi-même, la vie, si on sait prendre les cadeaux, mais elle nous envoie des signes. Et en tout cas, là, je l'ai écouté, et j'écoute, et j'apprends beaucoup de choses sur les intervenants, sur Brigitte, enfin, je sais pas, mais...
si vous voulez.
Avec, cette écoute, et ça me fait presque comme une formation sur la vie, sur les rapports avec les gens.
Oui, mais c'est le but, effectivement, de ce qu'on tente d'apporter aux auditeurs.
Je pense, ouais. C'est important. Et puis, c'est la première radio, en tout cas celle que je connais, où on peut parler librement sans être jugé de sexualité. Et Dieu sait si c'est vraiment important.
Pourtant, pourquoi ça devrait être l'école.
Oui,
l'école,
oui,
avant tout.
Ouais. Moi, je pense que ça manque et on devrait intervenir dans les écoles, d'ailleurs. Même comme ils parlent de sexualité dans les écoles, c'est bizarre.
Là et l'amour et
vous dans les écoles. C'est une bonne idée, je trouve.
Je suis pas sûre.
En maternelle.
Ah, mais non, mais vous savez bien avec ces changements d'horaire dans les écoles.
Oui.
Ils s'ennuient, ils savent pas quoi leur. Bon, on leur met en podcast.
Deux heures d'approche à la sexualité.
Voilà, là et l'amour et vous.
Et comme ça, les enseignants ne seront plus gênés effectivement pour aborder tous ces sujets plus ou moins tabous.
Bravo Céline.
Non, mais en tout cas, c'est vraiment une révélation. J'ai envie de faire des formations. Du coup, avec par exemple, il y a plein de gens qui viennent ici. Si je peux citer les noms, Alain Hérit, j'aime beaucoup.
Mais c'est quelqu'un de formidable. Absolument.
Sa formation en sexothérapie m'intéresse, plein d'autres gens aussi, et voilà, ça fait même les gens qui parlent, qui appellent, je trouve que c'est intéressant parce qu'on se sent moins seul et puis on s'ouvre à d'autres vies.
C'est enrichissant, puis ça normalise les petits bobos qu'on a tous dans le cœur, dans notre corps. Et ça apporte des réponses.
Donc bravo, faut continuer, bravo quoi.
Merci à vous de nous écouter.
Oui, absolument. Alors Céline, je crois que vous avez une passion. Vous êtes arrivée avec des instruments.
Dommage qu'on voit pas, mais c'est beau.
C'est très beau. Oui, vous avez. Alors c'est un grand bol tibétain, hein, c'est bien ça.
Oui.
Posé sur un petit coussin. Et le coussin, il est violet et noir. C'est donc des couleurs très spirituelles. Hein,
tout à fait.
Et donc, vous faites des bruits, c'est ça, avec ce bol?
En fait, c'est des bruits, des sons et aussi des massages. Ça veut dire que je pose le bol ou les bols sur le corps, qui n'est pas nu, mais ça peut être nu. Hein. Et puis, la vibration, c'est-à-dire que je fais sonner le bol. Et la vibration agit sur les liquides du corps. Donc, on entend le son qui est magnifique. Donc déjà, on va lâcher un petit peu le mental. C'est quand même important. Et en même temps, ça agit sur vraiment tout le corps qui se relâche petit à petit. Ça enlève les tensions. C'est très subtil, hein. C'est vrai que c'est pas tout de suite. Et j'ai une petite anecdote rapide, parce que bon, souvent les hommes sont, c'est quoi ce truc, ce bol? Enfin, t'as du bol. Enfin, on fait plein d'expressions comme ça. Et donc, j'avais fait des bons cadeaux pour Noël. Donc, une copine offre un ami et un couple. Et puis, le monsieur était, fais ça à ma femme. Moi, je reste là à côté derrière. puis à un moment donné, j'entends la porte qui s'ouvre, je fais donc le massage à sa femme, il rentre. Bien sûr, installe-toi, il n'y a pas de souci. Il se met sur la chaise et lui ne reçoit pas le massage, mais juste à l'écoute. Elle ne s'endort pas, lui je me retourne et il était endormi sur la chaise. Donc bon, alors
donc il avait lâché prise grâce au
mais
son.
Mais oui, donc. Grâce au son. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'entend et on le ressent. Et puis juste pour finir, je fais rapide.
Je fais aussi
beaucoup d'ateliers donc pour les parents, les couples donc qui veulent avoir des enfants parce que ça a une forme ronde. On peut mettre de l'eau dedans. Donc ça peut rappeler le corps, le ventre hein, maternel, les sons aussi, ça fait penser aussi aux sons qu'on peut entendre dans le ventre de la maman. Et c'est pas parce qu'ils vont faire une séance de bol qu'ils vont avoir un enfant, mais en tout cas, ça leur permet de communiquer autour d'une forme ronde, avec du liquide, de la vibration, et puis voilà.
Ça va vous ramener du symbolisme en fait.
Oui, en fait, je suis vraiment passionnée par ça.
Parce et on peut atteindre l'orgasme également.
Ben j'ai pas essayé encore, mais
comment ça
pas,
Il faut des ateliers orgasme.
C'est pas comme un vibromasseur loin de là, mais puisque ça émet une vibration, peut-être.
Je pense que le vibromasseur évidemment peut permettre d'atteindre l'orgasme, mais on peut atteindre un orgasme sans être touché.
Tout
hein,
à fait.
C'est des expériences. C'est des expériences que j'ai eu la chance de connaître. Et donc on voit bien que encore une fois, et Pascal Neveu, vous êtes psychanalyste, donc vous savez très bien. Encore une fois, notre inconscient est très fort, et c'est vrai qu'il faut un peu lâcher, et pas tout le temps être dans ce conscient,
dans le contrôle,
ce petit
quoi,
moi
ouais.
qui
Ah non, le psychisme a effectivement une incidence, une influence énorme sur le corps.
Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est pas si évident, parce qu'on fait toujours quelque chose. Et là, il n'y a vraiment rien à faire, il y a juste à recevoir. Et...
Vous nous faites un petit son comme ça, juste pour le plaisir.
Si on l'entend, je ne sais pas.
Allez-y. Ah oui.
Et alors, si on met la main à côté, c'est très électrique, ça envoie de la chaleur.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez tapé qu'une fois, ça résonne pendant très 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 longtemps.
D'ailleurs, le studio se lève. Non, je rigole.
Je suis en lévitation. Hein.
Voilà, merci.
En fait, toutes les fréquences d'RMC ont complètement explosé grâce à
D'ailleurs,
Céline.
Je ne sais pas comment ça prend, mais c'est vrai que c'est
et
pas évident à sonoriser.
Ça s'arrête quand
c'est long.
C'est incroyable, oui.
Oui, on l'entend encore.
J'ai touché. Mais c'est très long.
Oui, c'est complètement. Vous êtes toujours sur RMC, ne vous inquiétez pas.
Oui, on n'a pas changé de radio.
Il n'y a pas de tremblement de terre.
Non, ce n'est pas Radio Notre-Dame.
Et j'utilise la voix aussi parce que, bien sûr, ça parle aussi. Il y a des résonances que la voix a aussi.
Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir offert votre CD, Céline.
Oui, merci.
Sincèrement, moi, je connaissais les sons tibétains, je savais que. Ouais. Mais là, j'ai été un peu impressionnée parce que ça a une résonance.
Oui, c'est très, très fort.
Très forte. Donc j'imagine bien que ça, sur le ventre, avec de l'eau, ça doit être complètement.
Avec les os, les muscles,
etc. C'est comme quand on envoie, vous savez, un caillou et ça fait, les ricochets, les ondulations. Et je fais de la peinture avec. C'est-à-dire, je mets de l'eau dans le bol, les couleurs. Je fais sonner donc le bol et en mettant une feuille de papier, ça rassemble les couleurs et ça fait des dessins complètement hallucinants.
Et je ne vous raconte pas les yeux de Céline, ils sont magnifiques. Et on va être encore plus indiscret dans un instant puisque ce sera notre love test.
RMC, c'est le Late Night Show.